Donc cette année, nous changeons de programme. Après avoir suivi pendant 4 ans, pour ceux qui sont là depuis le début, les cours de théologie à partir de la citation de Saint Augustin, que je me connaisse et que je vous connaisse, que je connaisse le mal qui est en moi depuis le péché originel, c'était la première année, que je connaisse le bien qui est en moi par la grâce de Dieu et la charité, la deuxième année, et que je vous connaisse, Seigneur, que je connaisse notre Seigneur Jésus-Christ, la troisième année, et que je connaisse la vie de notre Seigneur en nous, par la grâce de nouveau et par les sacrements, c'était l'année dernière. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'Ancien Testament, sur la Sainte Écriture. Et s'il est vrai que, comme le disait Saint Jean Chrysostome, l'ignorance de la Sainte Écriture, c'est l'ignorance de notre Seigneur, c'est toujours dans le but de mieux connaître notre Seigneur et de mieux l'aimer que nous allons suivre cette année ce parcours de l'Ancien Testament, ce survol plus exactement de l'Ancien Testament. Alors il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la Bible. La Bible est le recueil des livres, s'il fallait donner une définition, la Bible est le recueil des livres qui, écrits sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, ont Dieu pour auteur principal et ont été transmis comme tels à l'Église. Le mot de Bible vient du grec « to biblion » qui signifie « le livre », c'est-à-dire « le livre par excellence ». Les autres noms que nous pouvons donner à la Bible, les Saintes Écritures, pour montrer que ce sont des écrits qui sont hors du commun, pour montrer que la Sainte Écriture renferme un contenu sacré. Ou on parlera encore de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le mot testament signifie alliance, et ainsi, le terme d'Ancien et Nouveau Testament ont pour but de manifester l'union entre Dieu et l'homme, qui s'est opérée à la fois avant la venue de notre Seigneur, c'est l'Ancien Testament, et par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. Cette alliance avait été rompue depuis le péché originel, et nous voyons que le bon Dieu n'a cessé d'essayer de renouer cette alliance perdue tout au long des siècles. Déjà, nous la voyons sous Noé, sous la forme d'un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolisait l'union entre le ciel et la terre. On la retrouve ensuite au temps d'Abraham, 1800 ans avant Jésus-Christ. Noé, c'était 3000 ans avant Jésus-Christ. Sous la forme d'une promesse, le bon Dieu lui dira « Je veux faire de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et enfin, la nouvelle alliance va se produire au soir du Jeudi Saint. Notre Seigneur va dire à ses apôtres, « Voici le sang de l'alliance versé pour vous en vue de la rémission des péchés. » Ainsi, vous le voyez, les livres sacrés de l'Église catholique ont pour noms principaux la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Sainte Écriture. Alors on distingue deux testaments, mais il y a des liens entre eux. Comme le dit très bien saint Augustin, « Novum testamentum in vetere latet, vetus testamentum in novo patet ». Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien Testament s'étend, s'éclaire dans le Nouveau. Et alors il est très important de savoir que l'Ancien Testament est figure du Nouveau Testament. Tout ce qui s'est produit dans l'Ancien Testament s'est produit en figure de ce qui allait se produire sous le Nouveau Testament. Notre Seigneur l'a dit lui-même explicitement, Moïse et les prophètes ont écrit de moi à mon sujet. Scrutez les Écritures, les prophètes l'ont dit. Et c'est pourquoi, pour nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, c'est très important, malgré tout, que nous connaissions également l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Notre Seigneur dit encore aux pharisiens, « Si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi. N'est-il pas écrit que le Fils de l'homme devait souffrir, mourir et par là entrer dans la gloire ?» Donc notre Seigneur est venu réaliser les prophéties de l'Ancien Testament. Et il dit aux scribes et aux pharisiens qu'il vient, par exemple, réaliser la figure de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Eh bien notre Seigneur dit lui-même, de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme demeurera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est dans le Saint Matthieu, chapitre 12, verset 40. Donc ceci nous montre, vous voyez, que pour les fidèles, il est important de connaître non seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, au moins dans ses grandes lignes. Mais d'un autre côté, vous savez que l'Église déconseille, a toujours déconseillé, aux fidèles la lecture de l'Ancien Testament sans commentaire. Et en particulier, le pape Léon XIII l'a rappelé dans l'encyclique Officiorum Acmonarum. Et donc je voudrais cette année vous donner quelques morceaux choisis de l'Ancien Testament en vous donnant un petit peu le sens de ces textes-là. Mais auparavant, il est très important de savoir comment lire l'Ancien Testament. Et en particulier, de connaître la part que le bon Dieu a eue dans les écrits de l'Ancien Testament et la part que l'hagiographe, que l'écrivain sacré, a eue dans l'Ancien Testament. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais quand même vous donner, je pense que plusieurs d'entre vous le savent, mais sinon je vais simplement rafraîchir votre mémoire, vous donner une division des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 catégories de livres. Les premiers livres sont les livres historiques, ensuite, qui représentent 21 livres historiques. Ensuite, vous avez 7 livres de la sagesse, qu'on appelle les livres sapientiaux. Et ensuite, vous avez 18 livres prophétiques. Alors, les livres historiques sont les suivants. D'abord, le Pentateuque, qui représente 5 livres, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome, qui raconte la vie des anciens depuis Adam et Ève jusqu'à Moïse. Et ensuite, vous avez le livre de Josué. Josué qui fait entrer le peuple dans la terre promise. Josué, ensuite ce sera l'époque des juges, en attendant la période des rois. Le livre de Ruth, ensuite le livre des rois. Donc, il y a 4 livres des rois. 2 livres des paralipomènes. Les 2 livres d'Esdras, le livre de Tobie, de Judith, d'Esther et les 2 livres des Maccabées. Donc ça, c'est l'ensemble des 21 livres qui forment le groupe des livres historiques. Alors ensuite, plus facile à retenir parce qu'ils sont moins nombreux, ce sont les livres de la sagesse. Les 7 livres de la sagesse, le livre de Job, tout d'abord, que nous étudierons parce que c'est, je pense qu'il est très, très riche en leçons. Le livre de Job, ensuite le livre des psaumes, qui représente 150 psaumes. Et vous savez que les prêtres, chaque semaine, récitent le psautier à peu près en entier, donc les 150 psaumes. Et malheureusement, pour vous montrer encore la crise de l'Église, dans le nouveau calendrier liturgique, dans la nouvelle liturgie, les prêtres aujourd'hui ne disent plus le psautier qu'une fois par mois, au lieu d'une fois par semaine. Et non seulement une fois par mois, mais on a amputé les psaumes de 10 ou 12%. On a enlevé tous les psaumes qui avaient trait à la colère de Dieu, à la sagesse, à la colère de Dieu,
pour dire, mais non, le bon Dieu est infiniment bon, le bon Dieu ne se met pas en colère. Donc on a supprimé une partie des psaumes, donc une partie des livres saints. Alors ça, nous l'étudierons aussi un petit peu. Ensuite, vous avez le livre des proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, hein, Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc ça, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Ensuite, le livre du Cantique des Cantiques, qui était mis plus tard, inséré plus tard dans le canon des livres sacrés, en raison du sens littéral qui est un peu cru, donc c'était difficile à admettre pour certains, donc il est plutôt à prendre dans un sens symbolique. Ensuite, vous avez le livre de la Sagesse, et enfin, le livre de l'Ecclésiastique, donc à ne pas confondre avec le livre de l'Ecclésiaste. Et enfin, troisième catégorie de livres, 18 livres qui représentent les livres prophétiques. Alors, il y a quatre grands prophètes, pas tout le monde doit connaître les quatre grands prophètes, je peux interroger quelqu'un d'entre vous, au hasard. Tout le monde baisse les yeux, sinon là. Regarde sa feuille. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ouf. Ensuite, vous avez le livre de Baruch, et ensuite, vous avez 12 petits prophètes. Alors, les 12 petits prophètes, je ne vous demande pas de les connaître par cœur. Vous avez Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. À ne pas confondre Malachie de l'Ancien Testament avec les prophéties du livre de Saint Malachie, qui sont du temps de Saint Bernard. Alors ensuite, après l'Ancien Testament, une division brève du Nouveau Testament, que vous connaissez mieux sans doute. Donc le Nouveau Testament est composé tout d'abord des quatre évangiles, ensuite des actes des apôtres, ensuite des épîtres de Saint Paul. Il y a combien d'épîtres ? Saint Paul a écrit combien d'épîtres ? 14, c'est très bien. Les 14 épîtres de Saint Paul, et ensuite les 7 autres épîtres, donc de Pierre, Jacques, Jean et Jude, et enfin le livre de l'Apocalypse. Donc, au total, on constate que la Bible est composée de 73 livres, dont la composition s'échelonne sur 15 siècles, depuis Moïse, qui a composé tout le Pentateuque, donc les premiers livres historiques, jusqu'à Saint Jean. Saint Jean, qui est le dernier des apôtres. Donc la révélation est close à la mort du dernier des apôtres, à la mort de Saint Jean. Alors donc on constate, quand on lira ces livres, que ces livres sont bien différents par certains aspects. Mais d'un autre côté, malgré cette diversité, on ne peut pas dire que ce soit une juxtaposition de textes, de morceaux disparaître. Il y a une certaine unité dans la Bible. On essaiera de montrer en quel sens. Et alors, en conclusion, Saint Jérôme nous dit « Le fleuve des Écritures coule entre deux rives que sont l'Ancien et le Nouveau Testament. » Donc on imagine deux rives, et sur chaque bord est planté le Christ. Et Bossuet disait à son tour, lisez les Écritures saintes, vous verrez partout le Sauveur Jésus. Alors l'objet et la division de cette conférence, après cette petite introduction, avant d'aborder l'étude directe du texte inspiré, il importe d'essayer de définir ce qu'est l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Et cela nous donnera, j'espère, un plus grand respect pour les textes sacrés, pour la Sainte Écriture. Et ensuite, nous parlerons de l'inhérence de la Sainte Écriture, c'est-à-dire le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur dans la Bible. Et enfin, nous dirons un mot des divers sens de la Sainte Écriture. Vous avez le sens littéral, mais ensuite vous avez le sens spirituel. Vous avez ensuite le sens accommodatis. On verra ce que sont ces différents sens de la Sainte Écriture, avant d'aborder les textes en eux-mêmes. Et puis ensuite, je vous ferai également toute une chronologie de l'Ancien Testament, depuis Adam et Ève jusqu'à notre Seigneur, la chronologie qui est faite dans la Bible, afin que vous puissiez après vous repérer, quand je vous parle de Noé, d'Abraham, de Moïse, de David, que vous puissiez à peu près savoir à quelle époque ils ont vécu. Alors maintenant, un traité un peu difficile, mais qui est très important, le traité de l'inspiration. Très important parce que malheureusement, il est remis en question encore aujourd'hui, surtout par les, déjà autrefois par les protestants et aujourd'hui, hélas, par les modernistes. Alors, le magistère de l'Église, normalement, pour connaître ce que Dieu pense d'un texte, on utilise toujours en premier l'argument en théologie, l'argument d'autorité, donc le magistère de l'Église. Qu'est-ce que l'Église nous dit concernant ce fait de l'inspiration? Et alors là, il y a une définition du Concile Vatican I sur l'inspiration des livres de la Sainte Écriture. Les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, tels qu'ils sont énumérés dans le décret de ce concile et tels qu'on les trouve dans la vieille édition de la Vulgate, la vieille édition latine de la Vulgate, donc que j'ai ici, sur la référence que l'on a, c'est la Bible de la Vulgate, donc en latin. C'est la référence sur laquelle l'Église s'appuie toujours quand il s'agit d'un texte de la Sainte Écriture. Donc ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament doivent être reçus pour sacrés et canoniques. Sacrés, c'est-à-dire venant de Dieu, et ensuite canoniques, donc ont été reçus dans le canon des Saintes Écritures, par opposition aux livres apocryphes que l'Église n'a pas reçus. Donc l'Église tient ces livres-là comme inspirés, non point parce que composés par le travail de l'homme, ils ont ensuite été approuvés par son autorité, alors ça j'expliquerai après ce que ça veut dire, non point seulement parce qu'ils contiennent sans erreur la révélation, mais parce qu'écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ont été transmis comme tels à l'Église. Donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est que l'Écriture sainte a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au point que c'est Dieu qui est auteur principal de la Sainte Écriture. C'est vraiment la parole de Dieu. Alors, la preuve de ceci dans la Sainte Écriture et la tradition, tout d'abord, Saint Paul le dit à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, écriture dans le sens de la Sainte Écriture. Saint Pierre le dit également dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 21, « Ce n'est pas par vouloir humain que sont venues les prophéties, c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de Dieu. Ce n'est pas par vouloir humain, mais c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint. » Saint Irénée, au deuxième siècle, les saintes écritures sont parfaites, elles ont été dites par le Verbe de Dieu et son Esprit. Au troisième siècle, Saint Clément d'Alexandrie, le Saint-Esprit, bouche du Seigneur, nous a donné l'Écriture. Le Saint-Esprit, bouche du Seigneur, nous a donné l'Écriture. Au quatrième et cinquième siècle, Saint Ambroise, on dit que la Sainte Écriture est divine parce que c'est Dieu qui l'a inspirée. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle. Alors après cet aperçu, on a pu prendre tout ce que les saints ont pu dire, mais là c'est juste un petit éventail. La censure de la doctrine par le Concile Vatican I. Il est de foi catholique défini que les livres canoniques ont été écrits par les écrivains sous l'inspiration du Saint-Esprit, de telle sorte que Dieu puisse être dit vraiment l'auteur. Alors maintenant, il reste à voir la nature de l'inspiration. En quoi consiste cette inspiration? On sait que les livres de la Sainte Écriture sont inspirés de Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce que n'est pas l'inspiration. Il y a deux erreurs concernant l'inspiration. L'erreur par défaut, c'est-à-dire donner une trop grande importance à l'homme et pas assez à Dieu. Et l'erreur par excès, de croire que c'est le bon Dieu qui écrit tout et que l'hagiographe, l'écrivain sacré, ne fait que prêter sa plume sans plus. Donc l'erreur par défaut, tout d'abord, c'est une diminution de l'action divine de telle sorte que l'homme sera dit seul auteur. Et c'est cette première erreur donc, qui était condamnée par le Concile Vatican I lorsqu'il disait ceci: l'Église tient les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament comme sacrés et canoniques, non point parce que composés par le travail de l'homme, ils ont été ensuite approuvés par son autorité. Ça voudrait dire que ce serait, imaginons Saint Paul qui écrit un texte, et puis ensuite il y a le bon Dieu qui vient le voir, qui lui dit: c'est très bien ce que tu as écrit, tu n'as pas fait d'erreur. Donc en ce moment-là, ce serait, si c'était le cas, en ce moment-là, l'écriture serait attribuée à Saint Paul. Et on pourrait dire, le bon Dieu ensuite est simplement venu affirmer qu'il n'y avait pas d'erreur. Donc on peut croire au texte, mais le texte serait le texte de Saint Paul. Donc l'inspiration, ce n'est pas ça. Ensuite, deuxième erreur, toujours dans l'erreur par défaut, non point parce qu'ils contiennent sans erreur la révélation. Donc ce serait l'inspiration assistance. Cette inspiration assistance existe normalement dans le cas des conciles dogmatiques. Dans un concile dogmatique, normalement, il y a l'assistance du Saint-Esprit qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans les documents établis par des conciles dogmatiques. Mais en ce moment-là, c'est une inspiration assistance. Donc ce n'est pas Dieu qui inspire ce qu'il doit dire, mais qui empêche que l'on se trompe concernant la foi et les mœurs. Alors ici, il ne s'agit pas de cela non plus. En ce moment-là, ce serait un influx négatif de Dieu. Dieu qui empêche que l'écrivain sacré puisse se tromper. Donc ce n'est pas ça encore l'inspiration. C'est plus que cela. Et la troisième erreur, ce serait une causalité, toujours par défaut, ce serait une causalité purement morale. Donc Dieu serait auteur parce qu'il a voulu que les livres soient écrits. Dieu voulait que Saint Paul consigne par écrit ce qu'il savait de notre Seigneur. Donc ce serait simplement une causalité morale. Mais ce n'est pas cela non plus, c'est plus que cela. Et même l'union de ces trois éléments, ne suffit pas à faire de l'écrivain sacré, à faire de Dieu l'auteur principal de la Sainte Écriture. Et la quatrième erreur, c'est l'erreur actuelle, malheureusement, c'est la position moderniste qui a été résumée par Loisy. Dieu est l'auteur de la Bible comme il est l'architecte de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Paris. Donc c'est Dieu qui a inspiré l'artiste. Donc c'est une inspiration, comme l'inspiration d'un poète qui se sent inspiré quand il écrit. Mais ce n'est pas du tout cela qu'il s'agit dans l'inspiration de la Sainte Écriture. C'est bien plus que cela. Alors, selon les modernistes, d'une façon générale, on peut dire que la Bible est le fruit du sentiment religieux à la fin du 1er siècle, au moins pour le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les croyants se sont réunis et ont eu un sentiment intense de la présence de Dieu, et puis l'un d'entre eux, bon, à savoir les évangélistes, ont consigné par écrit ce que les croyants ressentaient dans leur fort intérieur. Et donc la Bible, en ce moment-là, est réduite à un recueil d'expériences intenses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, d'après les modernistes, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé au temps de notre Seigneur. Ce que l'on sait, c'est que les croyants ont pensé que Jésus était un homme extraordinaire. Mais qu'est-ce que Jésus était exactement, on ne sait pas. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que dans la foi des croyants, Jésus était vraiment un homme exceptionnel. Donc il y a le Christ historique et le Christ de la foi. Et par la critique historique, ils disent... Pour comprendre en fait ce que les évangélistes ont voulu dire, il faut se mettre dans le contexte, la mentalité de l'époque. Et en ce moment-là, à travers ce contexte et la mentalité, ils arrivent à faire dire n'importe quoi, à tordre les textes et faire dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. Et alors, il y a eu un numéro de Cicinono du Courrier de Rome du mois d'octobre 90, sur la datation des évangiles, il manifestait justement que la librairie des éditions vaticanes et l'Osservatore Romano, c'est-à-dire le journal officiel de l'Église à Rome, soutiennent justement ces erreurs modernistes. Alors, dans l'Osservatore Romano a été rapportée donc une parole de Monseigneur Rossano concernant l'histoire de la formation de la Sainte Écriture. Et il disait ceci: on doit considérer trois étapes dans la rédaction littéraire des paroles et des actes de Jésus, ou plutôt dans la genèse des évangiles. Le premier correspond à la vie historique de Jésus. Donc on reconnaît que Jésus a vécu, bon, il a eu son histoire. Le second est celui de la communauté primitive après la résurrection et la Pentecôte, quand les disciples fixèrent et transmirent l'enseignement et les œuvres du Maître. Donc deuxième temps, c'est l'expérience des premiers croyants. Troisième temps, c'est celui des évangélistes, encore après, qui mirent par écrit la tradition évangélique avec une méthode correspondant à l'objectif que chacun se proposait. Et donc on finit par détacher le sens des évangiles du sens historique, en passant du Christ historique au Christ de la foi. Les évangélistes ne sont pas, comme le voudraient les protestants et les modernistes, de simples rédacteurs d'une tradition créée par la foi de la communauté primitive. Ça, c'est l'erreur moderniste. Et dans la conclusion de cet article, qui sera un petit peu long à lire, il dit ceci: de ce qui précède, il s'ensuit que la manœuvre moderniste en exégèse, donc en écriture sainte, commencé par les professeurs de l'Institut biblique et développé même durant le Concile, est toujours active. Donc, non seulement au Concile, il y a eu des déviations dans ce domaine, mais malheureusement, elle continue encore aujourd'hui. Cette manœuvre méprisant la tradition patristique, donc la tradition des pères de l'Église, le magistère de l'Église, c'est-à-dire tout ce que je vous ai lu tout à l'heure, les documents officiels, vise à assurer le droit de citer à ce rationalisme condamné de façon ferme et répétée par les pontifes romains. Donc on veut faire des évangiles un livre, on veut évacuer le surnaturel de l'évangile, faisant de l'évangile un livre extraordinaire, mais qui écrit en fait par des hommes, et uniquement par des hommes. Cette manœuvre, grâce à la suprématie des modernistes à tous les niveaux de la hiérarchie, est favorisée par les hautes sphères, comme le démontre la récente publication du libelle du jésuite Grelot par la Libreria Editrice Vaticanae, avec une publicité dans l'Osservatore Romano. Comme le démontre aussi depuis un certain temps la nomination à la commission biblique, donc à Rome, d'amateurs néo-modernistes de l'exégèse catho-protestante, etc. La gravité de la situation est telle que tout catholique est continuellement menacé dans sa foi par des assauts répétés, que sous la couverture d'une science de faux nom, lui assène même les plus modestes bulletins diocésains. Puisque les saints évangiles sont les sources écrites de la divine révélation, les assimiler, comme le fait l'exégèse rationaliste et moderniste, à des légendes fantastiques, revient à faire s'écrouler en même temps que leur authenticité et leur valeur historique, le fait même de la divine révélation. En considérant ceci, le lecteur comprendra l'importance de notre dénonciation que nous avons cherché à limiter dans la mesure du possible la longueur. Alors excusez-moi, sinon je n'ai pas tout compris ce texte. Ce qui est important de comprendre, c'est que, donc là je suis en train de vous donner la définition catholique de l'inspiration, pour vous dire dans quel sens il faut lire la Sainte Écriture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même à Rome, eh bien, on enseigne le contraire. On enseigne que malheureusement, ces livres sont des livres purement humains, enfin, qui ont un côté extraordinaire, fantastique, mais qui restent des livres humains. On a évacué le caractère surnaturel de l'Écriture sainte. Et cela toujours dans le même but, dans le but de plaire aux protestants. Comme par la nouvelle traduction œcuménique de la Bible, on veut s'entendre entre catholiques et protestants, eh bien, on essaie d'enlever tout ce qui pourrait choquer les protestants. Alors ça, c'est pour vous montrer l'importance de savoir dans quel sens on doit lire la Bible. Parce que que deux personnes peuvent lire la Bible, un protestant et un catholique. Le catholique, pour lui, la Bible aura un sens. Pour le protestant, elle en aura un autre. Et alors, qui des deux se trompe? Eh bien, c'est celui qui ne suit pas la véritable piste de Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'erreur par excès, ensuite, qui a existé un certain temps, en particulier par Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph et Tertullien, qui pensaient que Dieu dictait tout à l'écrivain sacré, en quelque sorte en extase. Donc, on aurait l'impression que chaque fois qu'un apôtre voulait écrire l'évangile, en ce moment-là, il rentrait en extase, et puis en ce moment-là, c'était Dieu qui parlait. Eh bien, ce n'est pas ça non plus l'inspiration. Parce que ça va contre le consensus également de la tradition, qui accorde une vraie part à l'écrivain sacré. Si Dieu est véritablement auteur, l'écrivain sacré est aussi véritablement auteur. Et on verra comment accorder l'un et l'autre. En effet, saint Luc, par exemple, dit, dans son chapitre 1er, verset 3, « Je me suis informé de tout. » Donc, ça montre qu'il a eu un rôle à jouer, autre chose que pendant une extase. Également, dans le deuxième livre des Maccabées, « Pour nous qui avons entrepris ce dur labeur d'abréviation. » Ça montre bien qu'ils ont bien un rôle à jouer, puisqu'ils parlent de dur labeur. Alors maintenant, après cette fausse nature de l'inspiration, voyons ce qu'elle est maintenant. Comment concevoir que Dieu et l'homme sont tous deux auteurs de la Sainte Écriture? Par l'inspiration, une œuvre a vraiment le Saint-Esprit pour auteur en premier lieu, sans que pourtant l'hagiographe cesse d'être proprement auteur. Donc Dieu est auteur, et l'écrivain sacré aussi. Donc il y a une seule écriture et deux auteurs. Alors comment comprendre la part de Dieu et la part de l'écrivain sacré? Est-ce que c'est une division entre Dieu et l'écrivain sacré, de telle sorte qu'une partie serait écrite par Dieu et l'autre partie par l'écrivain sacré? Eh bien non. L'écriture sainte est tout entière de Dieu et tout entière de l'écrivain sacré. Tout entière de Dieu et tout entière de l'homme. Est-ce que c'est comme une simple coordination, comme deux personnes qui tiraient une charrette? À ce moment-là, tous les deux font avancer la charrette, et en chacun donc un rôle. On peut dire que la charrette est tirée par les deux personnes. Eh bien non, parce qu'il y a une subordination de l'homme à Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple coordination, mais d'une subordination. Dieu est l'auteur principal. Est-ce le sens d'une extase? Non plus, parce qu'en ce moment-là, l'écrivain ne serait plus auteur. Donc on dira que c'est une subordination instrumentale. L'homme est un instrument entre les mains de Dieu. Mais le bon Dieu se sert toujours des instruments en fonction des qualités de l'instrument. Donc nous, on se sert d'un balai en fonction des qualités du balai. Et puis si on se sert un chef qui se sert d'un ouvrier pour faire un travail, il se sert des qualités de son ouvrier. Les qualités de l'ouvrier ne sont pas les qualités du balai. Eh bien, le bon Dieu, c'est pareil. Donc, il se sert de l'homme avec son intelligence d'homme, avec sa volonté d'homme, avec sa liberté d'homme, avec son imagination d'homme. Et c'est ce qui fait que l'écrivain sacré garde ses qualités humaines au moment où il écrit ce texte. Et c'est pourquoi, par exemple, saint Luc, qui était médecin, on sent parfois certains détails, quand il a vu des miracles, il parle en tant que médecin. Saint Matthieu, qui était surtout intéressé par l'aspect de... Comme il était juif, il était intéressé par l'aspect de la Sainte Écriture de l'Ancien Testament. Il dit toujours, dans son texte, il rapporte toujours les prophéties de l'Ancien Testament, pour bien montrer que notre Seigneur a réalisé les prophéties. Saint Marc, lui, rapporte Saint Pierre, rapporte ce qu'a fait Saint Pierre. Et bien, on voit l'humilité de Saint Pierre, par exemple, en particulier dans le passage de Saint Pierre qui trahit son maître. Et bien, c'est Saint Pierre qui a cité à Saint Marc. Ça montre le tempérament de Saint Pierre. On retrouve également son tempérament fougueux à travers la façon dont Saint Marc s'exprime. Et Saint Jean, qui, lui, était plus spirituel, d'une certaine manière, le quatrième évangéliste, hein, eh bien, on retrouve également, quand on lit Saint Jean, on voit bien que ça n'a pas, que Saint Jean n'a pas la même, façon d'être et d'agir que les autres évangélistes. Vous voyez que le bon Dieu se sert de chaque évangéliste, et cela est vrai également dans ce testament, en fonction de, des qualités et des défauts également humains qu'ils peuvent avoir. Alors ici, c'est intéressant, mais alors là c'est plutôt au niveau justement de des théologiens, de constater que les erreurs qu'il y a au sujet de la nature de notre Seigneur se retrouvent dans l'inspiration. Certains nient par exemple la nature divine de notre Seigneur, ils font de notre Seigneur un homme, supérieur aux autres, mais un homme, et bien pour eux l'Écriture sainte est humaine. Ceux qui vont nier la nature humaine de notre Seigneur, bien vont faire de l'Écriture sainte une dictée par Dieu, et ainsi des autres erreurs sur la nature de notre Seigneur. Enfin, pour nous, l'important, c'est de comprendre que Dieu est l'auteur principal de la Sainte Écriture. Même si on n'est pas tout compris le développement, le plus important, c'est de comprendre ça. Dieu est l'auteur principal de la Sainte Écriture. Et donc, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Attribuer une erreur à la Sainte Écriture, c'est l'attribuer à Dieu, puisque c'est Dieu qui est l'auteur principal. Et également, on doit dire que l'écrivain sacré n'a pas pu partager les erreurs de son temps sous l'inspiration. Saint Augustin compare l'écrivain sacré aux mains du Verbe incarné, de la même manière que notre Seigneur a écrit du doigt sur le sol au moment où la femme adultère était accusée. Eh bien, on peut dire en ce moment-là que l'écriture était divine, puisque c'était l'écriture de notre Seigneur qui est Dieu, et en même temps c'était une écriture humaine, puisque notre Seigneur était vraiment homme. Donc c'est un petit peu une analogie. De la même manière que l'écriture est à la fois de Dieu et de l'homme, de la même manière, la Sainte Écriture est à la fois de l'homme et de Dieu. Alors on va essayer d'approfondir un tout petit peu pour mieux comprendre ce que c'est que cette causalité instrumentale, c'est-à-dire le rôle de l'homme et le rôle de Dieu. On constate que quand un instrument est assumé par une cause principale, il agit à la fois par sa vertu propre et en même temps il agit en tant qu'élevé à un agir plus élevé, par la cause principale. Je vous donne un exemple. Le stylo. Vous écrivez avec votre stylo, et bien le stylo agit par sa vertu propre. Quelle est la vertu propre du stylo? C'est d'étaler de l'encre. Mais en même temps, ce stylo est manié par une main d'homme. Et donc l'écriture sera une écriture humaine. Donc à la fois, vous n'avez qu'une seule écriture, vous n'avez pas l'écriture du stylo et l'écriture de l'homme, vous n'avez qu'une seule écriture. Mais le stylo agit par sa vertu propre, à savoir qu'il étale l'encre, et en même temps, il est élevé à un agir supérieur par l'homme, et c'est une écriture qui est vraiment humaine, puisque c'est un homme qui a manié le stylo. Donc c'est un écrit intelligent. Et on constate en ce moment-là que dans l'instrument, la vertu propre est permanente, c'est-à-dire que le stylo a toujours la vertu d'étaler l'encre. Bon, c'est quelque chose quand on le laisse traîner dans un cartable et que... qu'on s'assoit dessus, à ce moment-là, ça, il y a des problèmes qui se posent. Tandis que la vertu instrumentale est transitoire, elle n'existe que quand l'homme manie le stylo. Si c'est un chien qui a un stylo au bout de sa patte, à ce moment-là, l'écrit ne sera pas un écrit intelligent. Donc il n'aura plus à ce moment-là son caractère d'écriture humaine. On constate que les deux actions ne sont pas séparables dans le temps. Le fait d'étaler de l'encre et le fait de que ce soit un écrit intelligent, cela se fait en même temps, c'est simultané. Et cependant, on peut dire que l'effet est attribué aux deux causes. L'effet est à la fois celui du stylo et celui de l'homme. Si l'homme n'avait pas de stylo, il ne pourrait pas écrire. Et si avec le stylo, ben, il n'y aurait pas d'écriture. Il faut qu'il y ait les deux. Donc, l'effet est attribué aux deux causes, à la fois au peintre et au pinceau, si on prend l'exemple de la peinture, mais il doit être attribué en premier lieu à l'homme, pas au stylo. On ne félicite pas un stylo pour un texte qui est écrit. Donc la cause principale, c'est l'homme. Donc dans les faits, il y a des vestiges des deux causes, à la fois de l'effet propre du stylo qui est étalé de l'encre, et puis en même temps, vous avez l'écrit intelligent. Et alors ça c'est important parce que ça vous aide à bien comprendre le rôle de l'écrivain sacré et le rôle de Dieu dans l'écriture sainte. Ça montre que c'est vraiment Dieu qui est l'auteur principal. Même si on voit de grandes différences dans le style de la Sainte Écriture, c'est pas suffisant pour dire que l'écriture serait une écriture humaine. La preuve que c'est une écriture humaine, c'est que Saint Jean n'a pas le style de Saint Luc ou de Saint Matthieu. Eh bien non, puisque vous pouvez avoir deux pinceaux qui n'ont pas la même adhérence sur la pierre, et pourtant la cause principale reste l'homme, et non pas le pinceau. Donc là c'est pareil. Le fait qu'il y ait des différences dans la Sainte Écriture ne veut pas dire pour autant que la cause principale c'est l'homme. La cause principale reste Dieu. Et ça c'est très important aussi parce que ça vous montre un petit peu comment un même texte sera compris totalement différemment suivant qu'il sera lu par un catholique ou par une personne qui n'est pas catholique. Si une personne n'est pas catholique, mais une personne quand même de bonne foi, elle pourra dire en effet ce texte est digne de foi. On a toutes les preuves scientifiques que l'évangile de Saint Matthieu a été écrite avant les années 50. En plus justement dans le même numéro il y a les découvertes d'un papyrus qui montre... Mais c'est ça, un manuscrit de Saint-Marc qui est daté des années 50, donc il y a des preuves que ces écrits sont bien proches du moment des originaux, donc c'est une preuve de leur authenticité. Mais, et puis ensuite, ce qu'il y a écrit à l'intérieur, ils pourront trouver ça très beau, comme étant digne de foi, mais ça s'arrêtera là. Tandis que pour le catholique, celui qui lit ça, c'est vraiment Dieu qui parle. C'est vraiment Dieu qui nous parle. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle de la Passion. Quand vous lisez la Passion, c'est le Saint-Esprit qui nous parle de la Passion. C'est le bon Dieu lui-même qui parle de la Passion. Donc ça vous montre un petit peu, déjà, c'est peut-être un peu ardu, mais ça vous montre vraiment ça doit vous donner une plus grande vénération pour l'Écriture sainte, en pensant que c'est vraiment le bon Dieu qui nous parle. Puis en même temps, ça permet de défendre contre ceux qui disent qu'il y a des erreurs dans la Bible. Alors, il pourrait y avoir des imprécisions, mais des erreurs, il ne peut pas y en avoir. Par sa vertu surnaturelle, nous dit le pape Léon XIII, le Saint-Esprit a animé et mû à écrire les écrivains sacrés. Il les a assistés lorsqu'ils écrivaient, de telle sorte qu'ils concevaient justement, donc le concept c'est le domaine de l'intelligence, qu'ils voulaient écrire fidèlement, la volonté suit l'intelligence, et qu'ils exprimaient exactement tout ce qu'il leur ordonnait d'écrire. Autrement, il ne serait pas lui-même auteur des Écritures saintes en leur entier. Donc le bon Dieu illumine l'intelligence de l'écrivain sacré, le bon Dieu meut la volonté de l'écrivain sacré, il l'assiste ensuite dans les facultés exécutives, pour ne pas qu'il se trompe, et quant à l'écrivain sacré, il conçoit justement, il veut écrire fidèlement, et il exprime exactement ce que le bon Dieu veut. Donc on dira que l'inspiration, en conclusion, est un influx physique, surnaturel, par lequel Dieu élève et applique les facultés de l'écrivain sacré, de telle sorte que l'écrivain sacré consigne par écrit tout ce que Dieu veut, rien que ce que Dieu veut, et de la manière que Dieu veut que cela soit écrit en son nom et transmis à son Église. Donc le livre sacré est une véritable révélation de Dieu. Et le contenu est à croire de foi divine. Voilà. Alors, excusez-moi, c'était peut-être un petit peu difficile, mais je tenais à vous faire ce petit exposé pour vraiment vous montrer dans quel sens vous devez lire la Sainte Écriture. Ensuite, après, bon, le reste,
sera bien sûr plus facile, surtout la partie historique, puis même les autres parties, mais ça c'était l'une des parties les plus importantes, parce que elle doit vous donner une plus grande vénération, je l'espère, pour la Sainte Écriture. Alors bien sûr, après ça, il y a des questions qui se posent naturellement, et donc on va essayer de résoudre petit à petit. Léon XIII. Il serait absolument impie de concéder que l'auteur sacré lui-même se soit trompé. Il est tellement impossible qu'une erreur puisse se glisser sous l'inspiration divine que celle-ci, par elle-même, non seulement exclut toute erreur, mais encore l'exclut et la repousse aussi nécessairement que Dieu, vérité souveraine, ne peut être l'auteur absolument d'aucune erreur. Attribuer une erreur à la Bible, c'est attribuer une erreur à Dieu. Et comme Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible. Alors, la chose qui est très importante à savoir ensuite, c'est que dans l'Écriture sainte, est infailliblement vrai ce que l'écrivain sacré, en tant que tel, affirme, et dans le sens où il l'affirme, et cela seulement. Donc, il faut savoir dans quel sens l'écrivain sacré a voulu parler. Est vrai ce qu'il a dit dans le sens où il a voulu le dire. Donc, est infailliblement vrai ce que l'écrivain sacré, en tant que tel, donc en tant qu'écrivain sacré, affirme, et dans le sens où il l'affirme, et cela seulement. Et ici, en plus, ce qui complique un petit peu pour nous, c'est qu'il s'agit du texte original, et non pas des copies. Dans les copies, il peut bien y avoir des erreurs. Il y a eu d'ailleurs des erreurs de transmission dans les copies. La preuve, c'est que les copies ne sont pas toutes identiques. Donc, il s'agit du texte original. Et le texte original, on ne l'a pas. Donc, il y a des problèmes qui vont se poser. Alors, la question que nous nous posons, c'est est-ce que l'on a les textes tels qu'ils ont été écrits? Eh bien non, nous n'avons pas les originaux. Les textes de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu, et ceux du Nouveau Testament ont été écrits en grec, sauf Saint Matthieu en araméen. Alors, parmi toutes les versions que nous pouvons avoir, l'Église a reconnu officiellement la Vulgate, donc c'est le livre que je vous ai montré là, c'est la Sainte Écriture en latin, de Saint Jérôme, la traduction de Saint Jérôme, au moment du Concile de Trente. La Vulgate a été composée par Saint Jérôme. Vous comprenez pourquoi j'ai invoqué Saint Jérôme, c'est parce que c'est la fête de Saint Jérôme aujourd'hui, mais c'est parce que, donc on le doit en grande partie, donc cette version de la Vulgate, qui est retenue aujourd'hui par l'Église. Donc la Vulgate a été composée par Saint Jérôme en 383, donc au IVe siècle, sur la demande du pape Saint Damase. Alors à son époque, il y avait beaucoup de versions latines qui circulaient, qui étaient différentes les unes des autres. Alors comme il y avait énormément de versions latines, on ne savait pas laquelle il fallait sur laquelle on pouvait se référer. Et alors le travail de Saint Jérôme a essayé de prendre... Il a essayé de prendre toutes les versions qu'il avait et à partir de ces versions, essayer de les purifier de leurs erreurs. À partir des manuscrits grecs qu'il avait en sa possession et également des manuscrits hébraïques. Ça a été un travail gigantesque. Il a pris toutes les versions latines qu'il avait, il a vu les manuscrits grecs et les manuscrits hébraïques et à partir de cela, il a fait ce travail de composition de la Vulgate. Alors dans l'ensemble, sa traduction est fidèle, elle est claire, elle est élégante, mais certains passages, malheureusement, sont incompréhensibles, en particulier dans les psaumes, parce que trop souvent, il a essayé de prendre au pied de la lettre, enfin de suivre trop littéralement le texte hébreu de son temps. Et quand on prend une autre langue au pied de la lettre, eh bien, il peut y avoir toujours des erreurs, surtout dans un texte poétique, il peut y avoir des incompréhensions. Et il n'a pas suivi suffisamment la version grecque qui était plus ancienne, la version de la Septante, qui est également reconnue. La version, l'Église a reconnu celle-ci parmi les versions latines, et ensuite la version de la Septante est toujours reconnue également par l'Église. Donc c'est une œuvre, en conclusion, en résumé sur la Vulgate, c'est une œuvre qui est tenue dans son ensemble pour une merveille, malgré quelques défauts. Et alors, cette traduction de la Vulgate, c'est pour vous ce qui vous intéresse la traduction. La traduction d'un vulgate se trouve dans l'ancienne Bible de Crampon. Donc il faut essayer de, si vous voulez avoir une Bible plus fidèle, c'est l'ancienne, il faut trouver l'ancienne Bible de Crampon, qui a été rééditée, mais je ne sais plus par qui. Quelle maison l'a rééditée, vous savez? Comment? C'est DPF, hein? DMM aussi. Comment? Diffusion fin des temps. Oh, c'est peut-être celle-là alors. Enfin, je pourrais vous donner les références si vous. Mais c'est la Bible qu'il faut lire pour être sûr de ne pas d'être le plus proche de l'original. Alors parmi toutes les éditions latines, voici ce que dit le Concile de Trente, donc au XVIe siècle, Concile de Trente. Parmi toutes les éditions latines des livres saints en circulation, l'officielle et la vieille édition de la Vulgate, approuvée dans l'Église par le long usage de tant de siècles, elle doit être tenue pour officielle dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications, et que personne n'ait l'audace ou la présomption de la rejeter sous n'importe quel prétexte. Et là encore, on se voit aujourd'hui avec la TOB, la traduction écrite de la Bible, on est loin de la Vulgate. Alors il s'agit d'une autorité ici juridique de l'Église qui implique tout d'abord une authenticité critique. Donc le texte de la Vulgate est substantiellement conforme au texte original. Nous n'avons pas le texte original, mais nous pouvons dire ce texte-là est substantiellement conforme au texte original. Et par ailleurs, dans les passages où il n'y aurait pas conformité, parce que je dis qu'il peut y avoir des passages où il n'y a pas conformité, il y a une immunité d'erreur par rapport à la foi et aux mœurs. Donc même si on n'a pas le texte original, on sait qu'il n'y a pas d'erreur pour autant quant à la foi et aux mœurs dans le texte de la Vulgate. Et la cause de cette authenticité, vous voyez, c'est l'argument de tradition. Au XVIe siècle, le pape, donc Saint Pie V, dit cette version doit être tenue pour être la version officielle. Pourquoi? En raison du long usage de tant de siècles. L'Église l'a approuvé pendant tant de siècles, et donc c'est l'argument de tradition qui prévaut. Donc on ne peut pas aller contre ce que l'Église a pu affirmer pendant si longtemps, depuis le 5e siècle jusqu'au 16e. À l'occasion de ce décret était l'abus de nouvelles versions. Donc, il faut bien retenir que le fait qu'il ne puisse y avoir eu d'erreur dans le texte original ne prouve pas pour autant qu'il n'y ait pas d'erreur dans les traductions que nous avons. Et parmi toutes ces traductions, nous savons qu'il y a peu de différences, ou pas de différences substantielles, entre la Vulgate et le texte original, et qu'il y a une immunité d'erreur par rapport à la foi et aux mœurs. Et cela nous suffit pour l'utiliser en toute sécurité. Et cela aussi doit nous inviter, je pense, à nous méfier des nouvelles traductions. Un exemple, hier, vous savez, on a eu l'évangile du Christ roi. Eh bien, à la question posée, es-tu le roi des Juifs, dans la TOB, dans la nouvelle traduction œcuménique de la Bible, la réponse de notre Seigneur est, c'est toi qui le dis. C'est-à-dire, moi je ne sais pas si je suis roi ou pas, c'est toi qui dis que je suis roi. Alors que la traduction officielle, c'est « tu l'as dit, je le suis ». Il y a une différence entre dire « c'est toi qui le dis » et « tu l'as dit, je le suis ». Également, il y a des textes qui mettent en doute la virginité perpétuelle de la Sainte Vierge et qui laissent croire qu'elle aurait eu d'autres enfants. Alors, et puis, enfin, ce sont des exemples, hein, mais on pourrait ensuite aller encore plus loin. Alors maintenant, juste un mot. En introduction, ça vous aidera pour la prochaine fois, sur les différents sens des Écritures. En langage scolastique, on appelle ça l'herméneutique sacrée, ou la théorie de l'interprétation des textes sacrés, donc le sens des Écritures, en français. Le sens d'un texte, qu'est-ce que c'est que le sens d'un texte? Le sens d'un texte est la pensée que l'écrivain veut communiquer à ses lecteurs. Prend le sens d'un texte et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. C'est le sens du texte, c'est cela. ce que l'auteur a voulu dire à ses lecteurs. Donc du moment que la Bible résulte de l'intime collaboration de Dieu, cause principale, et de l'écrivain sacré, cause instrumentale, le sens qu'elle présente est la pensée ou la vérité que l'Esprit Saint a voulu proposer aux hommes par l'organe des auteurs sacrés. Donc c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint a voulu dire par là, puisque l'auteur principal c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas qu'est-ce que saint Matthieu a voulu dire par là, qu'est-ce que saint Jean a voulu dire par là, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu dire par là, à travers saint Matthieu, à travers saint Jean. Il faut distinguer le sens inspiré, le sens non inspiré, c'est-à-dire non voulu par l'écrivain sacré ni par Dieu. Alors, le sens inspiré va se subdiviser en sens littéral et sens spirituel. Le sens littéral, on l'appelle aussi sens historique, et le sens spirituel, on l'appelle aussi sens typique. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une prophétie d'Osée, le prophète Osée. Au chapitre 11, verset 1, il est dit ceci. « Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, et dès l'Égypte, j'ai adressé des appels à mon fils. » Qu'est-ce qu'a voulu dire par là, donc, le Saint-Esprit, par le prophète Osée? Eh bien, le sens littéral, le fils en question, dès l'Égypte, j'ai adressé des appels à mon fils, le fils en question, c'est le peuple hébreu qui a quitté l'Égypte pour la terre promise. Donc, dès l'Égypte, j'ai adressé des appels à mon fils, eh bien, le bon Dieu a attiré les Hébreux d'Égypte, il les a fait sortir d'Égypte pour les amener en terre promise. Donc, dès l'Égypte, j'ai adressé des appels à mon fils. Ça, c'est le sens littéral. Mais le sens spirituel, ensuite, c'est notre Seigneur qui est revenu d'Égypte après avoir été, avoir dû quitter la Palestine au moment où le roi Hérode voulait tuer les enfants de moins de 2 ans. Et la preuve de cela, c'est que saint Matthieu le dit, Joseph resta en Égypte avec l'enfant et sa mère jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, d'Égypte j'ai rappelé mon fils. Donc saint Matthieu explique que cette parole d'Égypte j'ai rappelé mon fils, au sens spirituel, signifiait que un jour notre Seigneur devait, avec saint Joseph, revenir d'Égypte pour regagner de nouveau la terre promise. Donc vous voyez comment un même texte, le texte du prophète Osée, a un sens littéral qui a trait à un événement passé et un sens figuratif qui annonce ce que notre Seigneur va réaliser quelques siècles plus tard. Alors je vous explique simplement le sens littéral. Après le sens, la prochaine fois on verra les autres sens, le sens typique et ou spirituel. Le sens littéral, c'est le plus facile. C'est le sens que l'écrivain sacré a en vue directement et qui se dégage à la lecture du texte. Mais ce sens littéral peut être propre ou métaphorique. Ça, c'est très important parce qu'il faut savoir toujours, par exemple, vous connaissez, quand on discute avec les témoins de Jéhovah, ils vous disent, en parlant des 12 000 élus de chaque tribu, ils vous disent que c'est à prendre au pied de la lettre, au sens littéral. Alors, est-ce que c'est à prendre au sens littéral ou est-ce que c'est au sens figuratif? Alors, c'est très important de connaître pour ça les différents sens de la Sainte Écriture, pour savoir si c'est à prendre au pied de la lettre ou si c'est une figure, si c'est un sens propre ou un sens figuré. Donc le sens littéral peut être propre ou peut être métaphorique. Le sens propre est le sens des mots pris dans leur valeur ordinaire. Jésus, fatigué de la route, s'assit au bord du puits. Ça veut dire que Jésus était fatigué et puis s'assoit. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est vraiment le sens littéral, donc c'est ce que signifie le texte au pied de la lettre. Le sens métaphorique, c'est le sens des mots pris dans leur valeur imagée. Saint Jean Baptiste dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu. Ça ne veut pas dire que notre Seigneur est un agneau, c'est une image. Voici l'agneau de Dieu. Donc dans ce moment-là, c'est un sens qui est métaphorique. Ou lorsque notre Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, c'est une image. Alors que lorsque cette métaphore ensuite va être développée, elle deviendra l'allégorie. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et alors à partir de cela, le Seigneur prend, explique la part des sarments et la part du cep. Et donc à partir de là, il développe toute une. Il fait tout un développement. Alors en ce moment-là, on parlera d'allégorie. Et par contre, on parlera de parabole lorsque les objets comparés vont demeurer distincts. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé. Est semblable à, mais le royaume de Dieu n'est pas un grain de sénevé. Donc il y a une comparaison qui est prise, alors on appelle ça une parabole. Enfin, les paraboles, je pense que vous les connaissez. Le sens des paraboles, vous les connaissez. Et alors ensuite, le sens littéral peut être historique, prophétique, dogmatique ou moral. En fonction du contexte. Très souvent, le sens qui prime, c'est le sens historique, c'est sûr. Mais comme aujourd'hui, de par le manque de foi de nos contemporains, on essaie toujours de faire passer comme étant un langage imagé, ce qui est un langage, en fait, un langage clair. Par exemple, tout ce qui concerne Adam et Ève et tout ça, ça devient aujourd'hui, c'est devenu qu'un symbole. C'est un symbole que l'homme a souffert depuis toujours. On a raconté une histoire pour montrer qu'auparavant, il y a eu un paradis. C'est pour montrer, en fait, l'histoire du serpent, c'est pour montrer que depuis toujours, depuis l'origine de l'humanité, l'homme est pécheur. Il transforme un texte qui est à prendre au sens historique, donc au sens littéral, et il le transforme en un poème, donc à prendre un sens imagé. Donc les règles à retenir, ce sont les suivantes. Tout d'abord, tout passage de l'écriture sainte a un sens littéral. Cependant, celui-ci ne peut être qu'impropre, peut n'être qu'impropre. Quand le sens spirituel existe, il est toujours fondé sur le sens littéral. Alors, exemple de texte qui est impropre, c'est pour ainsi dire le seul cas, moi, qui est surtout bien connu, c'est le cas, comme je dis tout à l'heure, du livre du Cantique des Cantiques. Le sens littéral est impropre pour décrire l'union de Dieu et d'Israël. Le sens spirituel, c'est l'union du Christ et de l'Église. Et enfin, il est aujourd'hui communément admis que tout passage de la Bible n'a réellement qu'un seul sens littéral. Voilà, alors la prochaine fois on verra le sens spirituel. Alors ça vous paraît peut-être un peu difficile, toutes ces distinctions qui sont faites, hein, mais elles sont très importantes pour savoir de quoi on parle. Très souvent, dans toutes les discussions que l'on a, même avec des gens de l'extérieur, il faut toujours préciser le sens des mots pour savoir de quoi on parle. Parce que si moi, dans mon idée, je pense que le mot a tel sens et que la personne qui est en face de moi, pour elle, le mot a un autre sens, en ce moment-là, c'est un dialogue de sourds. On vous demande, est-ce que vous êtes intégriste ? Alors, première chose qu'il faut demander, c'est qu'est-ce que vous entendez par là ? En ce moment-là, une fois que la personne précise sa pensée, en ce moment-là, vous pouvez répondre que oui ou non. Non, je ne figure pas dans votre catégorie, c'est pas ça. Et au contraire, donc on peut en ce moment-là s'expliquer. Oui. Donc il est très important de préciser toujours le sens des mots. Et c'est justement parce qu'on a refusé aujourd'hui d'expliquer le sens des mots qu'on est tombé dans le modernisme. Les modernistes n'aiment pas qu'on précise le sens des mots, parce qu'une fois que vous précisez, en ce moment-là, vous êtes obligé d'affirmer, et donc vous condamnez ce qui est le contraire. Et c'est pourquoi les textes du Concile Vatican II sont justement des textes ambigus. On ne veut pas préciser votre pensée, on ne veut pas le faire, pour pouvoir arriver ensuite à sa fin en interprétant dans le sens que l'on désire. Alors que dans le langage catholique, on précise toujours ce que l'on veut dire, afin de pouvoir discerner la vérité de l'erreur. Le propre du démon, c'est toujours de se cacher, de se camoufler. Et donc il aime bien tout ce qui est flou, tout ce qui est trouble, tout ce qui est ambigu. Alors que l'Esprit Saint, au contraire, parle toujours clairement. Et c'est pourquoi je pense que toutes ces distinctions peuvent nous aider ensuite à mieux comprendre le sens de la Sainte Écriture et à ne pas nous troubler en lisant certains passages qui seraient peut-être à prendre que dans un sens parfois donc peut-être imagé. Ou au contraire, parfois. Et c'est pour ça aussi que quand on voit qu'il y a tellement de sens dans la Sainte Écriture, eh bien, au lieu d'essayer de se dire qu'est-ce que le texte signifie, eh bien, il suffit de regarder le commentaire. Comment est-ce que l'Église a interprété le sens de ce texte ? Voilà, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Tandis que par le libre examen, chacun se fait sa petite idée en disant ce texte doit vouloir dire ceci ou cela. Alors que ça peut très bien aller dans le sens opposé de ce que l'Église a toujours affirmé. Donc notre critère, c'est toujours la Sainte Écriture et la Sainte Écriture interprétée à la lumière de la tradition, telle que l'Église l'a toujours enseignée. C'est ce sens-là qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, on fait absolument l'inverse. On cherche à noyer le poisson pour ne pas choquer les gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, et à établir des textes ambigus qui puissent entraîner le consensus unanime des personnes qui ont des conceptions différentes. Et donc, avec le plus petit dénominateur commun, on arrive à avoir des textes qui sont faux et qui sont fous et qui font perdre la foi. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, pas pour cette fois-ci. Vaut mieux attendre, hein, d'avancer. Oui. C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça, oui. Alors ça dépend des textes en fait, et puis ça dépend ce qu'on entend par Église. Ça dépend des textes parce que il y a des textes sur lesquels l'Église ne s'est pas prononcée, parce que on voit bien que toujours que j'ai beau dire le langage catholique est un langage clair, notre Seigneur lui-même, il y a des mystères dans la Sainte Écriture, il y a des mystères qui resteront jusqu'à la fin du monde. Et le bon Dieu l'a voulu, donc ça aussi on lira certains passages, à la fois pour notre humilité, pour qu'on comprenne que notre intelligence humaine est étroite et bornée, donc on n'arrive pas à tout saisir, et puis également pour que justement on ait le désir d'approfondir un texte. Un texte qui serait trop clair, on n'aurait pas le désir d'aller plus loin. Mais ensuite, après, il faut distinguer ce qu'on entend par Église, entre ce qu'affirment des hommes d'Église, et ce que l'Église affirme dans un concile, par exemple, dogmatique, est différent. Donc il y a des degrés ensuite de... Et puis même dans les textes même, il y a des degrés de crédibilité. Il y a des textes qu'il faut croire de foi catholique, d'autres de foi catholique définie, d'autres simplement qui sont... il y a plusieurs échelles après dans les degrés dans lesquels on doit... porter notre adhésion au texte. Il y a des textes qui sont simplement théologiquement certains. Il y a des textes qui sont différents. Donc, ce qu'on appelle les notes théologiques sont des textes. Ça, c'est autre chose. Au niveau, surtout ce qu'apporte Qumran, c'est que ça confirme apparemment surtout. Le sens des textes que nous avions entre les mains, surtout par rapport entre les copies et l'original. Et on constate qu'il n'y avait pas d'erreur substantielle donc, dans les copies que nous avions. Bon, je pense que c'est en grec, mais ça dépend des écoles. Oui, c'est vrai. Et normalement, j'ai dit que c'était les écrits du Nouveau Testament étaient écrits en grec, sauf Saint Matthieu en araméen. Non, c'est pas les vrais. Oui. Non, le résumé, c'est dans le livre des Maccabées. Non, c'est Luc qui a dit que... Ouais. Ah, n'importe comment, oui. Parce que Saint Jean dit que tout ce que notre Seigneur a dit et fait au cours de son ministère... Il fallait tout le consigner par écrit, le monde entier ne suffirait pas. L'essentiel en fait, c'est... Oui, ça c'est encore d'autres questions. Y a-t-il des textes inspirés qui n'auraient pas encore été découverts? Non. Je pense qu'il n'y en a pas, mais non, je ne sais pas. Ça serait possible qu'il y aurait des textes, d'accord, je pense qu'il n'y en a pas, mais enfin, ça rien. Oui, mais en tout cas, ce qui est très important surtout, c'est de savoir que
notre référence, ce n'est pas la Bible uniquement, c'est la tradition orale justement. Parce que beaucoup de choses n'ont pas été consignées par écrit, mais ont été transmises par voie orale, de génération en génération. Et ça fait partie du dépôt de la révélation. Alors se contenter de la Sainte Écriture en négligeant tout ce que l'Église a, par exemple, il n'est pas téméraire de penser que, même si on n'en parle pas du tout dans les évangiles, que notre Seigneur a expliqué aux apôtres comment dire la messe, comment donner les sacrements, et tout ça, ça n'a pas été consigné par écrit. Et par contre, la tradition nous montre que la messe a été célébrée dès le 1er siècle, la fin du 1er siècle, au moins quant au canon. On a des écrits qui montrent que le canon de la messe remonte aux apôtres. Donc si le canon de la messe remonte aux apôtres, on peut penser que c'est le Seigneur qui l'a donné aux apôtres. C'est clair. Et ça, vous n'en voyez pas mention dans la Sainte Écriture. Vous avez par exemple le purgatoire, le fameux dogme du purgatoire. Eh bien, vous avez simplement un ou deux passages ténus dans la Sainte Écriture. Dans l'Ancien Testament, on parle dans le livre des Maccabées qu'ils avaient une offrande pour les morts. Alors, s'il y avait une offrande pour les morts, c'est qu'on pouvait les soulager. Si on pouvait les soulager, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas, ou au ciel ou en enfer, parce que sinon, s'ils sont en enfer, c'est trop tard. S'ils sont au ciel, eh bien, ça ne sert de rien. Donc ça c'est un texte ténu en faveur du purgatoire. Mais l'Église a attendu très tard pour l'affirmer. Et pourtant c'est une certitude. Alors l'Église en général quand elle affirme toujours, elle s'appuie toujours sur la Sainte Écriture. Mais ce lien peut paraître vraiment ténu. Par exemple l'Immaculée Conception, l'Église pour affirmer que la Sainte Vierge est immaculée dans sa conception dit c'était contenu dans Pleine de Grâce. La Sainte Vierge étant remplie de grâce, plénitude de grâce, elle ne pouvait pas connaître la moindre souillure du péché, ni même la moindre tache du péché, et donc devait naître donc sans souillure, et donc sans le péché, sans la tache du péché originel. Mais c'est quand même ténu. La preuve, c'est que saint Thomas d'Aquin croyait que la Sainte Vierge était née avec la tache du péché originel. Et que plus tard, au bout de quelques mois, comme Saint Jean d'ailleurs, le bon Dieu, miraculeusement, aurait enlevé cette tâche, comme dans le cas de Saint Jean-Baptiste, hein, qui a été dans le sein de sa mère, la tâche du péché original a été effacée. Bon, voilà. Oui. Oui, enfin, du fragment, là, c'était d'un en l'occurrence, celui-ci, là, Ah, mais c'est autre chose. Oui. Bien. Eh bien, donc, la prochaine fois, nous continuerons cette introduction, et puis ensuite, eh bien, nous attaquerons au texte même, c'est la partie sans doute la plus intéressante. Mais c'est assez délicat ces conférences, puisque ce que je vous fais là, c'est le résumé de ce que l'on fait au séminaire en une année d'écriture sainte, vous voyez. En deux séances. Voilà. La dernière fois, je vous avais parlé que je vous donnerai aujourd'hui les références pour l'achat d'une Bible. Pour le Nouveau Testament, il y a en vente à Chiré en Montreuil. Le Nouveau Testament, 564 pages, pour le prix de 180 francs, l'édition de 1885. On la trouve également chez DMM, Dominique Martin Morin. Si vous voulez la totalité de la Bible, vous la trouvez aux éditions DFT, Diffusion Fin des Temps. L'édition de 1923, au prix de 290 francs. Si certains sont intéressés par une de ces Bibles, soit l'ancien, soit le nouveau, soit les deux, eh bien, éventuellement, je pourrais faire une commande groupée, à moins que vous vouliez l'acheter vous-même directement, comme vous le souhaitez. Il y a peut-être d'autres... et puis également, c'est sûr qu'au marché Opus ou à Emmaüs, si on a la chance, on peut trouver pour 15 ou 20 francs une Bible ancienne. Donc ça, c'est la Bible de Crampon, qui est donc la traduction de la Vulgate dont nous avions parlé la dernière fois. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, un petit rappel de ce que nous avons vu. Tout d'abord, en introduction, on a présenté ce qu'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible? On a vu que la Bible, c'est le livre par excellence. Ça vient de to biblion, qui signifie le livre. Pour montrer que c'est vraiment le livre par excellence. La Bible se divise en deux grandes parties. La partie de l'Ancien Testament, qui représente 21 livres historiques, 7 livres de la sagesse et 18 livres prophétiques. Et ensuite, les livres du Nouveau Testament, que forment les 4 évangiles, les Actes des Apôtres, les 14 épîtres de Saint Paul et les 7 épîtres de Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean et Saint Jude. Et enfin, l'Apocalypse. Si divers que soient ces livres, 73 livres, qui s'échelonnent sur 15 siècles, depuis Moïse jusqu'à Saint Jean, il y a malgré tout une certaine continuité, et en particulier parce que les livres de l'Ancien Testament étaient figures du Nouveau Testament, et les livres du Nouveau Testament viennent réaliser les figures de l'Ancien Testament. Ensuite, nous nous étions plongés dans la question délicate, un peu difficile, de l'inspiration. La question que nous posions dans le livre, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de l'écrivain sacré? Et nous avions montré que l'écrivain sacré est comme un instrument entre les mains de Dieu. Mais comme le bon Dieu utilise les instruments en fonction des qualités de ses instruments, il fait appel donc à l'intelligence, à la volonté, à l'imagination et au libre arbitre des écrivains sacrés. Ce qui fait que le style d'un apôtre n'est pas forcément le style d'un évangéliste n'est pas forcément le même que celui d'un autre évangéliste. Mais si l'homme n'est qu'un instrument, ça veut dire que l'auteur principal de la Bible, c'est Dieu. Et la conséquence qui en découle, si Dieu est l'auteur principal de la Bible, il ne peut y avoir d'erreur dans la Bible. Et cela, c'est ce qu'on appelle l'inhérence. Mais s'il ne peut y avoir d'erreur dans la Bible, autre question que nous nous posons tout de suite, avons-nous en main la Bible telle qu'elle a été écrite? Et la réponse est négative. Nous n'avons que des copies. Et alors, ces copies sont-elles conformes au texte original ?